Il y en a qui pensent que le Brexit sera évidemment un énorme succès. Il y en a qui pensent que le contraire sera le cas. Ouais. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que quand Donald Trump parle d'un accord phénoménal ou un accord de libre-échange historique avec la Grande-Bretagne, on peut être sûr d'une chose, c'est que ça sera un accord phénoménal principalement pour les États-Unis. Il faut bien comprendre que l'économie américaine pèse 7 fois plus que celle de la Grande-Bretagne, et surtout que si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne sans un accord, elle sera vraiment dans le besoin et les États-Unis pourront plus ou moins dicter leurs termes. Donc ça sera un accord sur aux conditions des États-Unis, je pense.
Alors dites-nous très rapidement pourquoi ces propos sur le NHS, le service de santé publique cher aux Britanniques, ont-ils fait polémique ?
Parce que le NHS, c'est notre, comme vous le dites, service de santé publique, c'est vraiment la fierté de la Grande-Bretagne. Et en demandant que le NHS soit sur la table pour les négociations de cet accord de libre-échange, ce que Donald Trump propose, en fait, c'est une sorte de privatisation de la NHS, du NHS, et donc d'une ouverture du marché de la santé publique britannique aux entreprises américaines.
Oui, il faut dire quand même que plus tard, il devait indiquer que le NHS était quelque chose qu'il ne considérerait pas comme faisant partie du commerce. Herman Cohen, je me tourne vers vous. Le périple britannique du président Trump a-t-il permis de souder la fameuse relation spéciale entre les deux pays, comme le veut la traditionnelle rhétorique des dirigeants américains et britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale?
Je crois que oui. Jusque maintenant, il y avait des tensions entre l'Amérique et les alliés de l'OTAN, y compris les Anglais. Mais je crois que président Trump s'est bien acquitté. Et maintenant, les relations sont retournées au normal, à mon avis.
Ah, normal. OK, vous êtes très optimiste, positif. Mohamed Camara, je vous propose d'écouter cette question de l'une de nos chaînes partenaires en RD Congo. Elle nous vient de Serge Farini de Mishapi Voice TV à Goma. Écoutez.
Quelle est la place de l'Afrique dans les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe sous l'administration de l'actuel président Donald Trump? Ont-elles pris une tournure comparativement aux relations de ses prédécesseurs, notamment George Walker Bush et Barack Obama?
Une question pertinente. Merci bien, Serge Farini de Mishapi Voice TV, notre partenaire à Goma. Mohamed Camara, que pouvez-vous répondre à Serge?
Je crois que la question de Serge est très intéressante. Mon seul problème avec cela, c'est que je pense que la place que l'Afrique occupe ou devrait occuper dans les rapports entre l'Europe et les États-Unis, c'est une question qui n'intéresse pratiquement personne qui voudrait que l'Afrique se forge une place respectable sur l'arène internationale. Ceci ne veut pas dire que je rejette la question de Serge, parce que quand même elle nous impose une certaine réflexion. À mon avis, il revient aux Africains de définir la place de l'Afrique dans les relations internationales. Les États-Unis et l'Europe ne réservent à l'Afrique que la place qui favorise leurs intérêts mutuels et leurs intérêts respectifs. Quelques exemples, voyez par exemple et l'Europe et les États-Unis vis-à-vis de l'Afrique du Sud au temps du régime d'apartheid. Et même s'il y avait quand même, on chantait à corps et à concert les droits de l'homme, des Noirs et des non-blancs en Afrique du Sud, et les intérêts des sociétés supranationales des États-Unis et de l'Europe, ils faisaient business. Et ensuite, voyez-vous, l'Europe et les États-Unis en Somalie dans les années 90 ou au Rwanda pendant la même période, la période du génocide, et plus récemment l'OTAN en Libye, et les conséquences de toutes ces interventions étrangères qui, pendant lesquelles ou aux environs desquelles il n'y a aucune évidence que l'OUA à son temps ou aujourd'hui l'Union africaine ait été sérieusement consultée, que la voix des Africains, que la position des Africains ait été prise en considération avant que ces forces étrangères n'agissent. Et maintenant nous avons en Libye où la traite des nègres, il faut le dire, la traite de nègres continue. J'utilise le terme nègre ici dans son contexte colonial ou même précolonial que l'on sait. Et donc, je dis encore que c'est à l'Afrique, c'est aux Africains de déterminer la place de l'Afrique. Ce n'est pas à Donald Trump de le faire, ce n'est pas à l'Union européenne de le faire. Il faudra que l'on arrête de se faire remarquer par les puissances étrangères.
John Henley, après le Royaume-Uni, pourquoi Donald Trump s'est-il rendu en Irlande? Brièvement, si vous pouvez.
C'est une bonne question. Je pense principalement pour visiter son complexe golf et hôtel à Dunbeg, en Irlande. De toute façon, il a passé beaucoup de temps là-bas. Il a eu une réunion qui a duré à peine une demi-heure avec le premier ministre irlandais, pendant laquelle il a montré qu'il ne comprenait pas très très bien les intérêts les conséquences du Brexit pour l'Irlande. Et en partant de la France, demain, il va repasser par Irlande pour jouer du golf.
Herman Cohen, il y a eu des manifestations anti-Trump à Londres, mais quelle lecture faites-vous des polémiques avec Meghan Markle et le maire de Londres, Sadiq Khan?
Meghan Markle a parlé de Trump quand elle était simple citoyen américain avant son mariage. Comme beaucoup d'Américains, elle a beaucoup critiqué Trump. Maintenant, président Trump dit elle était méchante avec moi, mais elle était simplement. Donc c'est pas très important. Ce qui est plus important, ce que le maire de Londres a dit, parce que pour voir dans les sondages, etc., Trump n'est pas très populaire avec les Anglais, la population, surtout à Londres.
Pour les manifestations dans les villes, à Londres, on ne sait pas ce que les gens pensent à l'intérieur du pays. Ça, c'est
donc, le maire de Londres reflète le sentiment de sa population.
Mais justement, Sadiq Khan ne manque pas non plus de tenir des propos acerbes à l'égard du président américain. C'est d'ailleurs lui qui a lancé la controverse dans une vidéo avant la venue de Donald Trump. Est-ce un moyen pour le maire de s'attirer de la publicité gratuite?
Le maire était maladroit parce qu'il faut soutenir la politique du Premier ministre quand vous êtes maire de Londres dans les affaires étrangères. Donc, il était très maladroit, mais il reflète le point de vue de sa population.
Et maintenant, deux commentaires Facebook. El Adama Sunda Ima de la ville burkinabé de Boulsa. De nos jours, il y a l'individualisme qui gouverne notre monde. Donc, selon moi, ce n'est qu'une amitié passagère. Et Nada Daba de N'Djamena, avec Trump, rien n'est sûr. C'est quelqu'un qui est très imprévisible. Tantôt, il est allié, tantôt, il devient ennemi. Toujours des propos contradictoires. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient dans quelques petits instants. We'll be right back. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Merci d'être toujours des nôtres. Nous braquons les projecteurs sur le voyage en Europe du président américain au lendemain d'une cérémonie poignante en Angleterre pour marquer le 75e anniversaire du débarquement. Donald Trump s'est rendu en Normandie ce jeudi pour la suite des commémorations. Le 6 juin 1944, le jour J, le D-Day, plus de 150 000 alliés prennent pied sur les plages normandes, étape clé de la libération de l'Europe de l'Allemagne nazie. Pour le souvenir, des anciens combattants américains sont retournés en Normandie. Henry Ridgwell a rencontré l'un d'eux. Son reportage est relaté par Irénée Hermanoumbou.
L'âge a laissé sa marque, les cicatrices de la bataille ont ralenti, mais leur détermination n'a pas diminué. Lundi à Omaha Beach, d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont venus voir et se souvenir. Russell Pickett était alors un soldat de 19 ans du 116e régiment d'infanterie.
Notre bateau a volé en éclats quelques mètres avant que nous n'atteignions la terre. J'ai repris connaissance, allongé sur le sable, les pieds dans l'eau. Mes jambes ne pouvaient pas bouger, donc je ne sais pas vraiment comment, d'une façon ou d'une autre, j'étais arrivé là.
Plus de 4000 soldats alliés sont morts le même jour. Les pertes allemandes, elles, sont estimées à entre 4000 et 9000. Pickett a été sauvé par un autre navire de débarquement juste au moment où la marée était sur le point de le ramener en mer.
Il avait ramassé environ 4 autres blessés. L'un d'eux avait toute l'épaule arrachée et est mort en route vers le navire.
Pickett fut renvoyé chez lui dans le Tennessee en juin 1945. Nombre de ses frères d'armes ne sont pas rentrés.
Croyez-le ou non, j'essaie de tout oublier. Mes souvenirs de tous mes amis tués et enterrés dans le cimetière ici. Vous pouvez imaginer, je suis heureux d'être ici, ceci étant mon dernier voyage.
Environ 35 anciens combattants américains du jour J se sont rendus en Normandie cette année, aux côtés de dizaines d'autres vétérans de Grande-Bretagne, du Canada et de plusieurs autres pays.
Irénée Hermanoumbou, merci bien. Et nous retrouvons nos invités. Professeur Mohamed Camara, chef du département d'études africaines à Howard University. Il nous rejoint du New Hampshire via Skype de Paris. John Henley, grand reporter au journal britannique The Guardian. Et à mes côtés, sur ce plateau, dans la capitale américaine, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Alors, pour des commentateurs africains, la contribution du continent au débarquement du 6 juin a été importante, mais n'est toujours pas reconnue. Écoutez ce qu'écrit l'éditorialiste guinéen Boubacar Sanso Barry. S'il est vrai que les Africains n'ont peut-être pas fait partie des troupes qui ont débarqué en Normandie, ils étaient là durant tout le processus. La contribution africaine à la victoire contre l'Allemagne nazie n'est pas des moindres. L'Afrique a offert son sol comme champ de bataille, ses fils comme combattants et ses avoirs comme contribution financière. 249 000 Africains avaient été mobilisés et une bonne partie n'est jamais revenue du front d'après lui. Mais on fait comme si l'Afrique n'avait rien fait. C'est à croire que l'objectif est de falsifier l'histoire en gommant la partition que les Africains y ont jouée. Mohamed Camara, partagez-vous cet avis ?
En partie, oui. Il faut reconnaître historiquement que les gouvernements français et britanniques en particulier ont fait quelques efforts vis-à-vis de leurs anciennes colonies en matière de reconnaissance de la contribution de ces colonies aux efforts de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale particulièrement, puisqu'il s'agit de celle-ci dans ce programme. Mais il faut aussi dire que la contribution africaine, au-delà de ce près d'un quart de million d'Africains qui se sont battus en Europe contre l'Allemagne nazie, il y a eu beaucoup d'autres formes d'efforts de guerre, tant sur le plan agricole, industriel, financier et autres. Et c'est toujours dans le cadre de ces relations je dirais même proto-colonial, que la reconnaissance de la participation africaine est encadrée particulièrement en Afrique francophone. Bon, je ne veux pas ici faire des accusations gratuites vis-à-vis de qui que ce soit. L'histoire est là pour nous le dire. Mais je pense que on devrait dépasser cette façon de voir les choses pour contribuer à rehausser le statut mémorial des Africains qui se sont battus pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour la libération de l'Europe en général, et à partir de laquelle les mouvements de libération nationale en Afrique ont pris de la racine, même si à la conférence de Brazzaville, il n'en était pas question pour le général de Gaulle, mais le résultat final a été que les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ont conduit même si c'était indirectement à la naissance des mouvements de décolonisation en Afrique. Évidemment, pour finir, je crois que les commentaires de M. Boubacar Sansobari se comprennent aussi dans le contexte guinéen, puisque vous savez que la façon dont la Guinée a obtenu son indépendance et ce qui a suivi pendant au moins les 30 années suivantes entre la France et la Guinée, c'est un cas plutôt un peu particulier par rapport au reste de l'Afrique francophone dans ses rapports avec la France.
D'accord. Herman Cohen, on parle donc du rôle éminent de l'Afrique et des Africains dans la victoire des forces alliées, mais beaucoup de commentateurs évoquent une ingratitude flagrante à l'égard du continent africain. Qu'en pensez-vous?
Non, il n'y a pas d'ingratitude. D'abord, ce qui est mal connu, c'est le premier pays fasciste italien qui était libéré pendant la Deuxième Guerre, était libéré par des Africains, c'était l'Érythrée. Il y avait des soldats venant de Rhodésie à l'époque, des Noirs et aussi d'Afrique. Mais aussi, l'Afrique a fourni beaucoup d'aide. Le premier uranium pour la bombe atomique est venu du Congo. Et les aéroports en Afrique de l'Ouest, comme Accra, Banjul, ont servi pour le transit des soldats américains vers le Moyen-Orient et l'Est asiatique. Donc, l'Afrique a joué un grand rôle.
Deux autres commentaires Facebook. Diramgar Théadoum, de la capitale tchadienne. L'Afrique a fait de gros sacrifices lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la victoire des Alliés, mais elle est mal récompensée. On nous a juste donné de la patate chaude avec la fameuse indépendance qui ne nous arrange pas. Voilà le point de vue de ce commentateur Facebook. Ben Benoît de Kinshasa, entre l'Europe et l'Amérique, ce n'est qu'une question de profit. Pour nombre d'Américains et d'Européens, le débarquement a tissé un lien indissoluble entre les États-Unis et l'Europe. John Hanley, où en sont aujourd'hui les relations entre l'Amérique de Donald Trump et l'Union européenne?
Écoutez, je pense que la plupart d'Européens font bien la différence entre les États-Unis et l'histoire de la relation entre les États-Unis et l'Europe et l'administration de Donald Trump. Il est vrai, surtout en ce qui concerne les Britanniques, il existe ce qu'on appelle une relation spéciale depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont eu ce sentiment d'avoir été les seuls pays à peu près à tenir bon, à résister contre l'Allemagne nazie. Mais il est sûr que l'arrivée sur la scène de Donald Trump a quelque peu bousculé la donne. Ça a changé la donne. Parce que, tout simplement, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un dont la devise, c'est bien connu, c'est l'Amérique d'abord. America first et make America great again. Et c'est quelqu'un qui croit dans la force de l'État-nation, qui se méfie un peu des alliances internationales. Il a dit ou il a critiqué dans le passé l'OTAN, les Nations Unies, et il fait de même avec l'Union européenne.
Mohamed Camara, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche avait marqué un refroidissement des liens diplomatiques entre l'administration américaine américaine et l'Union européenne. Plus de deux ans après, les tensions se sont-elles apaisées? C'était un peu l'avis de Herman Cohen tout à l'heure. Qu'en pensez-vous, Mohamed Camara?
Oui, je crois que le Donald Trump que l'on a vu en 2016 et le Donald Trump de 2019, il y a eu quand même une certaine réduction des ardeurs. Vous savez certainement que l'Amérique est une démocratie très complexe. Même si les républicains contrôlent le Sénat, les démocrates sont dans la Chambre des représentants. Et puis la bureaucratie d'État, la bureaucratie fédérale, la technocratie, j'allais dire, fédérale américaine est très puissante. De sorte que le chef de l'État, le président des États-Unis, est... Enfin, c'est l'homme le plus fort, comme ou un jour peut-être la femme la plus forte, comme on le dit. Mais cet individu, cette personnalité, pardon, fait partie de tout un système. Même si Donald Trump est ce leader transactionnel, comme on le dit, il fait partie d'un système et il ne peut pas continuer à s'envoler sans aucun contrôle, ou en tout cas sans aucune restreinte, et puis déranger les relations, les alliances les plus sûres des États-Unis. Mm-hmm. Bon. Il y a aussi que l'Union européenne sait que Donald Trump est là, peut-être pour un maximum de 8 ans, et l'État américain ou le gouvernement fédéral américain restera là, et sachant que l'Union européenne et l'Amérique sont liées par des intérêts qui sont plus fondamentaux que la présence de tel homme ou de telle femme à la tête de tel gouvernement. Je ne minimise pas, absolument pas, l'importance de chefs d'État ici et là, mais les intérêts nationaux dans les relations internationales sont plus ancrés et plus fondamentaux que la politique ou l'idéologie d'un chef qui est là pour une période passagère.
Mm-hmm. Herman Cohen, il y a eu tête-à-tête ce jeudi entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump, et d'ailleurs cela a été très cordial. Évidemment, il y a toutes ces cérémonies marquant le débarquement. Mais on sait qu'il y a beaucoup de désaccords entre les deux, du climat à l'Iran, en passant par les tensions commerciales. Pourquoi se pose-t-il désormais sur autant de sujets? Parce qu'on sait qu'au départ, au début, il y a eu beaucoup de complicité entre les deux dirigeants.
Oui, mais maintenant, ça ne va pas très bien, surtout sur la question d'Iran. Parce que les Européens et président Obama ont fait un accord avec l'Iran pour le contrôle du nucléaire. Et Trump, tout de suite après avoir pris le pouvoir, il a rompu ça. Donc les Français ne sont pas contents. Et ils ont peur que Trump amène les Européens à la guerre avec l'Iran. Donc pour ça, les relations restent très tendues.
Mm-hmm. John Hanley, très rapidement, il y a le journal Le Monde qui a fait un dossier récemment et qui a parlé d'une crise des relations transatlantiques. Y a-t-il urgence pour le bloc occidental de se mettre d'accord? Et en quoi c'est important pour un continent comme l'Afrique?
Bah, écoutez, je pense qu'il est essentiel. Je pense que le monde est aujourd'hui face aux défis qui sont très, très difficiles de combattre seul. C'est-à-dire que le changement climatique, la montée des extrêmes, les inégalités, on est passé au-delà des défis. Oui. Que les pays sont capables de lutter contre tout seul. Il faut faire ça ensemble. Et tant qu'il y a des chefs d'État qui persistent à trouver...
C'est un sujet qui mérite toute une émission en elle-même, John Hanley. Je vous remercie. Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités, bien évidemment. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. Un petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Elles sont nombreuses. Dont Golf FM et Golf TV au Bénin. Je remercie toute l'équipe. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.